L'histoire de François et d'Anna que je vais vous conter aujourd'hui est un bonheur de généalogiste. D'abord parce qu'elle s'écarte des sentiers battus qui nous amènent, pour l'essentiel, à remonter le temps des familles françaises dans tous les départements de l'Hexagone jusqu'à la fin du XVe siècle. Ensuite parce qu'elle a permis de résoudre un grand mystère familial et de susciter une profonde émotion chez ses protagonistes. François Aubouaneau est un brillant informaticien de 45 ans qui consume sa vie dans une course sans cesse accélérée. Après le décès de son père, il découvre en rangeant son bureau un volumineux dossier sur l'histoire de sa famille. S'il pensait se contenter de le feuilleter, il est très vite happé par ce qu'il apprend. Ignorant jusqu'à l'existence d'une telle quête des origines, il se plonge dans les documents accumulés par son père. Il partage ses nouvelles connaissances avec Anna, sa femme depuis 12 ans. Il l'a connue et épousée à Bruxelles, où elle occupe un poste de responsabilité dans les services juridiques de la Commission européenne. Anna évolue comme un poisson dans l'eau dans l'univers des organisations internationales. Elle parle 5 langues, et lorsqu'il l'a rencontrée, François ignorait jusqu'à sa nationalité. En fait, Anna est belge, mais c'est son apparence indienne qui, dès le départ, l'avait fascinée. Anna est née à Bruxelles, où ses parents s'étaient installés. François s'est rapidement lié avec eux, mais n'a jamais eu l'occasion, ou peut-être n'a jamais osé, évoquer leur pays d'origine. Pour résumer, l'avocat cossu et la cardiologue réputée, si bien insérés dans la bonne bourgeoisie d'Ixelles, n'avaient d'indien qu'un teint un peu mat. Leur patronyme, Bassompierre, valait tous les passeports européens. Lorsque François se décida à interroger Anna sur ses ascendants, il était un peu nerveux, comme s'il s'attendait à des réticences. Il n'y avait jamais réfléchi auparavant, mais l'occidentalisation marquée de sa belle famille semblait révéler comme un refoulement de leurs véritables racines. Mais Anna ne s'offusque pas, elle est simplement ignorante. Elle assure François que le sujet, sans être tabou, n'avait jamais été abordé avec ses parents. Elle ne sait qu'une chose, ils sont nés à Pondichéry, une ville où elle s'est rendue une seule fois l'année de ses 12 ans pour assister aux obsèques de sa grand-mère. Elle n'en a conservé d'ailleurs qu'un souvenir bien vague. Mais alors pourquoi ce nom de Bassompierre ? Pour Anna, les choses sont simples. C'est son nom, c'est celui de ses parents et même celui de ses grands-parents. François insiste. À Bruxelles, ils ont plusieurs amis d'origine indienne qui évoluent dans le même univers qu'Anna au sein des institutions européennes. Mais ils s'appellent Ramsamy, Virasamy, Sababadi, Ouraj Kumar. Rien à voir avec Bassompierre. François a ouvert Wikipédia. Il y a trouvé un maréchal de France, François de Bassompierre, proche d'Henri IV puis de Louis XIII. Une commune de Moselle porte aussi ce nom, mais aucun lien avec l'Inde. Curieusement, Anna refuse d'interroger ses parents, tout en étant incapable de motiver sa réserve. « Elle ne le sent pas, dit-elle. Elle n'a rien d'autre à dire. » Mais l'insistance de son mari a malgré tout piqué sa curiosité. Elle ne s'oppose pas à confier une recherche à un généalogiste. Et c'est là que j'entre en scène et que commence notre histoire. Anna a pu me communiquer le nom et le prénom de ses grands-parents paternels, nés et morts à Pondichéry. Je n'ai eu aucun mal à trouver la trace de leur mariage, car Pondichéry, ville du sud-est de l'Inde, c'est un tout petit bout de France que nous n'avons perdu qu'en 1954, où une consultation de conseillers municipaux a voté le rattachement à l'Inde par 170 voix contre 8. La rétrocession officielle de l'établissement français à l'Inde ne fut définitive qu'en 1962. Si nous voulons ensemble démêler le mystère de la famille Bassompierre, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire l'impasse sur un rappel historique. Pondichéry est entré dans l'histoire de France en 1673, lorsque la Compagnie des Indes s'est vue céder un petit village de la côte de Coromandel au bord du golfe du Bengale. L'offrande venait du sultan de Bijapur, qui voulait casser le monopole de la compagnie hollandaise qui ne servait pas assez ses intérêts. Le site est pourtant médiocre pour la navigation, car la côte est basse, sableuse, avec des lagunes et une barre de vagues brisantes. Mais la zone est favorable pour le commerce, avec la proche embouchure d'une rivière qui permet de pénétrer aisément à l'intérieur du pays. La ville connaît son apogée avec le célèbre Dupleix, nommé en 1742 gouverneur de Pondichéry et commandant général des établissements français de l'Inde. Les événements l'incitent à entrer en relation avec les princes locaux, et il adopte un style de splendeur orientale dans son costume et son cadre de vie. L'essor de Pondichéry est alors spectaculaire et les Britanniques en prennent ombrage. Entre les deux puissances, les combats sont permanents. Dupleix est rappelé en France en 1754 car les actionnaires de la Compagnie des Indes contestent son grand dessein de créer un vaste empire en Inde. Ils s'en tiennent à leurs seules ambitions commerciales. Pondichéry n'a plus alors pour vocation que d'être un comptoir français en Inde. Les Anglais ont désormais le champ libre pour étendre leur influence à la place des Français. Pondichéry est ainsi une ville martyre des guerres successives entre Français et Anglais. Assiégée, conquise, pillée, ravagée, elle revient toujours à la France à la faveur des traités de paix. Au XIXe siècle, c'est une enclave française dans un pays désormais entièrement dominé par les Britanniques. Elle n'a plus d'importance militaire, mais connaît toujours un bon développement économique. Les archives françaises des établissements français de l'Inde sont bien documentées et il est relativement aisé de suivre les grandes étapes, naissance, mariage, décès, des citoyens français qui y résident. La première trace tangible des ascendants d'Anna est celle de son arrière-grand-père, Joseph Francis Bassompierre. En mai 1883, âgé de 22 ans, il épouse à Pondichéry en première noce Perianayagam Saint-Jean, qui n'a pas 17 ans, et qui est la fille d'Adicéam Saint-Jean, garde-meuble à l'hôtel de la direction de l'intérieur. Voilà une profession difficile à cerner, mais qui nous fait penser à un fonctionnaire subalterne de l'administration française de la ville. Joseph est rapidement veuf, puisque Perianayagam meurt en avril 1885 à Pondichéry, à moins de 19 ans. En avril 1888, trois ans plus tard, il se remarie avec Conjan de Amal Erard, âgée elle aussi de 16 ans, comme sa première épouse le jour de ses noces. Conjan de Amal, qui est l'arrière-grand-mère d'Anna, n'a plus ses parents. Mais l'acte de mariage nous apprend que son père, Essou Erard, était de son vivant le gardien du cimetière d'Oupalom, Savariachéry, qui dépend de la commune de Pondichéry. Ces deux actes successifs de mariage nous en disent déjà beaucoup sur Joseph Bassompierre. Il nous donne sa date de naissance à Pondichéry, le 19 mars 1861, et sa profession au moment où il se marie. Il y est désigné en 1883 comme marchand et en 1888 comme commerçant. Mais dans les deux cas, une mention additionnelle précise qu'il est aussi catéchiste. La famille était donc chrétienne. Avec cette référence, il nous faut encore plonger dans l'histoire religieuse indienne. Très tôt après l'établissement des Français à Pondichéry, arrivèrent les missionnaires capucins et jésuites. La société tamoule et hindoue de Pondichéry, comme le reste de la société indienne, était divisée historiquement sur la base des castes, organisées hiérarchiquement et auxquelles on ne pouvait échapper. Au fil du temps, avec l'arrivée des Français à Pondichéry, certains membres appartenant aussi bien à des hautes castes qu'à des castes inférieures se convertirent au catholicisme grâce aux efforts déployés par les missionnaires. La profession de Joseph Bassompierre, marchand ou commerçant, fait de lui un membre de la caste Vaishya, qui se compose d'artisans, de commerçants, d'hommes d'affaires, d'agriculteurs et de bergers. Le fait qu'il soit aussi désigné comme catéchiste renseigne sur son implication dans la religion catholique. La mission de Pondichéry, sous l'autorité d'un évêque, compte alors 80 missionnaires, une trentaine de prêtres indigènes et une quarantaine de séminaristes. Comme il y avait à peu près 200 000 fidèles, le rôle des aides laïques travaillant comme catéchistes s'avérait essentiel. Ils formaient une élite sociale, spirituelle et culturelle qui assistait les missionnaires dans la plupart de leurs tâches, de la prédication à l'exorcisme. Ils servaient en outre de médiateurs entre la mission et les communautés catholiques sur le terrain. Dès l'âge de 22 ans, on l'a vu, Joseph est donc œuvre de catéchiste, et ce, jusqu'à sa mort à l'âge de 50 ans. Maintenant que nous avons bien avancé pour démêler les fils entre l'histoire religieuse en Inde et la famille Bassompierre, il faut nous atteler au mystère du nom de notre Joseph. Car les trois actes d'état civil que nous connaissons, ses deux actes de mariage et son acte de décès, mentionnent tous le nom de son père, et celui-ci ne s'appelait aucunement Bassompierre. Il portait un nom indien, dont la transcription varie selon les actes, Arokyame ou Arokyam. Je tiens là une première piste pour peut-être réconcilier Anna avec ses origines profondes. Comme je sais que son arrière-grand-père est né en mars 1861 à Pondichéry, date figurant sur son acte de mariage, il suffit d'aller chercher son acte de naissance dans les archives de l'établissement français de l'Inde, que je maîtrise bien désormais. Mais là, je fais chou blanc. Si vous connaissez cette expression populaire d'origine berrichonne, vous comprenez que je n'ai rien trouvé. En pensant que la date figurant dans le registre du mariage a pu être erronée, j'ai étendu mes recherches entre 1859 et 1864 pour m'assurer qu'aucun Joseph Bassompierre, ni même un Joseph Arokyame ou Arokyam, n'était né à Pondichéry. Cet échec me donnait tout de même un enseignement précieux. Joseph n'était pas français en 1861, mais il l'était en 1883. il était aussi à peu près certain qu'il s'appelait Arochiam ou Arochiamé en 1861 et Bassompierre en 1883. Qu'avait-il bien pu se passer entre ces deux dates pour provoquer à la fois un changement de nationalité et un changement de nom? La lecture patiente du journal officiel des établissements français de l'Inde des années 1848 à 1881 fournira la clé de l'énigme. Les natifs de Pondichéry ont toujours possédé un statut personnel propre, distinct de l'état civil français, et la France avait pris l'engagement de respecter les sensibilités locales exacerbées sur ces questions. Ils étaient ainsi paradoxalement sujets français, mais civilement étrangers. Les Indiens catholiques se trouvaient dans une situation juridique paradoxale. Ils étaient notamment toujours jugés par des tribunaux indiens qui leur appliquaient les coutumes de leur caste sans tenir compte des spécificités de leur état religieux. Le gouvernement de la Troisième République entend trancher cette situation de double allégeance. Il publie un décret le 18 septembre 1881 que l'on va appeler le décret de la renonciation. La renonciation, c'est le moyen potentiel pour les chrétiens de ne plus être régis par le droit coutumier hindou ou musulman. Elle a attiré en premier lieu les pariens intouchables qui y trouvaient un moyen de réintégrer une société de laquelle ils étaient exclus par le système de caste hindou. Mais l'essentiel des renonçants étaient des chrétiens. En renonçant à leur statut personnel, ils devaient aussi indiquer dans l'acte de renonciation le nouveau nom patronymique qu'ils entendaient adopter pour eux et leur descendance afin d'affirmer leur pleine appartenance à la nation française. Le registre des renonçants de Pondichéry, établi en 1882, comprend 1259 noms. Parmi eux, bingo, celui de Joseph, qui abandonne son nom d'Arochiam pour celui de Bassompierre. Son âge 21 ans lui permet de prendre l'option pour lui-même et sa descendance, ce que son père ne fera pas. La lecture des 1259 noms adoptés montre toute l'ingéniosité des intéressés pour donner une dimension française à leur identité symbolique. Si les prénoms français fournissent d'excellents noms de famille, beaucoup recherchent de belles consonances bien françaises ou adoptent le nom de personnages historiques ou célèbres. Nous avons ainsi des Titus, Brutus, Horace, Socrate, Pygmalion, mais aussi Racine, Colbert, Danton, Robespierre, Napoléon ou Cambronne. Les saints fournissent leur lot de patronymes et un renonçant a même choisi de s'appeler philosophe. Joseph trouvera Bassompierre. Où a-t-il déniché ce patronyme? Impossible de le savoir. Le choix de l'arrière-grand-père d'Anna d'opter pour la renonciation de son statut personnel hindou pour protéger sa foi chrétienne grâce au Code civil français nous offre ainsi un miracle généalogique. Sans cette décision, toute recherche serait évanouie dans la longue nuit des temps du peuple tamoul. La quête des ascendants d'Anna s'arrête en effet aux parents de Joseph. De son père, on ne connaît que le nom d'Arochiam ou d'Arochiamé. Son prénom nous reste inconnu. Par différents recoupements, on sait qu'il est né vers 1830. Il vivait à Pondichéry en 1861, lors de la naissance de son fils. Il y vivait encore en 1880, lorsque sa propre femme, Élise Sébastiane, y meurt le 6 février. Il quitte alors Pondichéry pour s'établir à Madras, dont il est résident lors des deux mariages de son fils en 1883 et 1888. Il y exerce la profession de confiseur. Madras est une ville tamoule située au nord de Pondichéry, environ 170 km, également sur le golfe du Bengale. Mais la ville, qui s'appelle aujourd'hui Chennai, se situe en territoire anglais. Et toute trace de notre Arochiam se perd ainsi, même si l'on sait qu'il était déjà décédé en 1911. Faute de pouvoir remonter plus haut, on peut maintenant revenir à la vie de Joseph, dont nous connaissons les deux mariages. Avec sa première épouse, il a une fille, Cécile, qui naît en novembre 1884, mais qui meurt 5 mois plus tard, en avril 1885. 4 jours après, c'est la mère de l'enfant qui décède alors qu'elle n'a pas 19 ans. Joseph se remarie, nous l'avons vu 3 ans plus tard, avec Kondonjea Malerar, âgée de 15 ans et demi, qui est la fille d'un renonçant aussi, dont le nom indien est Savaria Kuti. Le couple qui habite le quartier de Kourousoukoupon à Pondichéry aura 9 enfants, dont 5 morts en bas âge. 4 vont donc survivre. Et le plus jeune, Essoudas, né en juillet 1906 à Pondichéry, comme tous ses frères et sœurs, sera très tôt orphelin, puisque Joseph, toujours marchand et catégiste, meurt, je vous l'ai déjà dit, à 50 ans, en avril 1911. Et sa femme, Gonjan de Amal, lui survit moins d'un an, décédant à 40 ans en mars 1912. Essoudas Bassompierre, le dernier enfant, va s'engager dans les forces françaises libres en 1941 à Pondichéry. Il fait la guerre au Moyen-Orient, Il y obtient le grade de caporal, il sera décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. Blessé pendant les combats, il en a gardé des séquelles, cause de sa mort, en mai 1965 à Pondichéry à 56 ans. Il avait épousé Marie-Joséphine, de 13 ans sa cadette. Celle-ci décède en juin 1998 à Pondichéry. C'était donc la grand-mère d'Anna. Et nous avons déjà appris qu'elle a accompagné ses parents pour ses obsèques lors de son unique séjour dans l'ancien comptoir français de l'Inde. La restitution de cette histoire à Anna, qu'il a aussitôt transmise à ses parents, comme à ses oncles et tantes, a représenté une forte charge d'émotion. Le mystère du nom familial était dissipé. Désormais, les Bassompierre se savaient aussi des Arocam, et le destin singulier de Joseph était mis en pleine lumière.